Le Capital, livre premier, première section, chapitre grand 3. La monnaie ou la circulation des marchandises. Grand 1. Mesure des valeurs. Dans un but de simplification, nous supposons que l'or est la marchandise qui remplit les fonctions de monnaie. La première fonction de l'or consiste à fournir à l'ensemble des marchandises la matière dans laquelle elles expriment leur valeur comme grandeur, de la même dénomination, de qualité égale et comparable sous le rapport de la quantité. Il fonctionne donc comme mesure universelle des valeurs. C'est en vertu de cette fonction que l'or, la marchandise équivalente, devient monnaie. Ce n'est pas la monnaie qui rend les marchandises commensurables. Au contraire, c'est parce que les marchandises en tant que valeurs sont du travail matérialisé et par suite commensurables entre elles qu'elles peuvent mesurer toutes ensemble leur valeur dans une marchandise spéciale et transformer cette dernière en monnaie, c'est-à-dire en faire leur mesure commune. Mais la mesure des valeurs par la monnaie est la forme que doit nécessairement revêtir leur mesure immanente, la durée du travail. Note de bas de page. Poser la question de savoir pourquoi la monnaie ne représente pas immédiatement le temps de travail lui-même, de telle sorte, par exemple, qu'un billet représente un travail de X heures, revient tout simplement à ceci. Pourquoi, étant donné la production marchande, les produits du travail doivent-ils revêtir la forme de marchandise? Ou à cet autre, pourquoi le travail privé ne peut-il pas être traité immédiatement comme travail social, c'est-à-dire comme son contraire? J'ai rendu compte ailleurs, avec plus de détails, de l'utopie d'une, ouvrez les guillemets, monnaie ou bon de travail, fermez les guillemets, dans le milieu actuel de production. Ouvrez la parenthèse, log site, page 61 et suivant, fermez la parenthèse. Remarquons encore ici que le bon de travail d'Owen, par exemple, est aussi peu de l'argent qu'une contremarque de théâtre. Owen suppose d'abord un travail socialisé, ce qui est une forme de production diamétralement opposée à la production marchande. Chez lui, le certificat de travail constate simplement la part individuelle du producteur au travail commun et son droit individuel à la fraction du produit commun destinée à la consommation. Il n'entre point dans l'esprit d'Owen de supposer d'un côté la production marchande et de vouloir de l'autre échapper à ces conditions inévitables par des bousillages d'argent. Fin de la note de bas de page. Donc, mais la mesure des valeurs par la monnaie est la forme que doit nécessairement revêtir leur mesure immanente, la durée du travail. L'expression de valeur d'une marchandise en or, X marchandise grand A égale Y marchandise monnaie, est sa forme monnaie ou son prix. Une équation isolée telle que une tonne de fer égale 2 onces d'or suffit maintenant pour exposer la valeur du fer d'une manière socialement valide. Une équation de ce genre n'a plus besoin de figurer comme anneau dans la série des équations de toutes les autres marchandises, parce que la marchandise équivalente, l'or, possède déjà le caractère monnaie. La forme générale de la valeur relative des marchandises a donc maintenant regagné son aspect primitif, sa forme simple. La marchandise monnaie, de son côté, n'a point de prix. Pour qu'elle pût prendre part à cette forme de la valeur relative, qui est commune à toutes les autres marchandises, il faudrait qu'elle pût se servir à elle-même d'équivalent. Au contraire, la forme où la valeur d'une marchandise était exprimée dans une série interminable d'équations devient, pour l'argent, la forme exclusive de sa valeur relative. mais cette série est maintenant déjà donnée dans les prix des marchandises. Il suffit de lire à rebours la cote d'un prix courant pour trouver, dans toutes les marchandises possibles, la quantité de valeur de l'argent. Le prix ou la forme monnaie des marchandises est comme la forme valeur en général, distincte de leur corps ou de leur forme naturelle. Quelque chose d'idéal. La valeur du fer, de la toile, du froment, etc. réside dans ces choses mêmes, quoique invisiblement. Elle est représentée par leur égalité avec l'or, par un rapport avec ce métal qui n'existe, pour ainsi dire, que dans la tête des marchandises. L'échangiste est donc obligé soit de leur prêter sa propre langue, soit de leur attacher des inscriptions sur du papier pour annoncer leur prix au monde extérieur. Note de bas de page. Le sauvage ou le demi-sauvage se sert de sa langue autrement. Le capitaine Parry remarque, par exemple, des habitants de la côte ouest de la baie de Baffin, ouvrez les guillemets. Dans ce cas, l'échange des produits entre parenthèses, ils passent la langue deux fois sur la chose présentée à eux, après quoi ils semblent croire que le traité est dûment conclu, fermez les guillemets. Les Esquimaux de l'Est léchaient d'eux-mêmes les articles qu'on leur vendait à mesure qu'ils les recevaient. Si la langue est employée dans le Nord comme organe d'appropriation, rien d'étonnant que, dans le Sud, le ventre passe pour l'organe de la propriété accumulée et que le cafre juge de la richesse d'un homme d'après son embonpoint et sa bedaine. Ces cafres sont des gaillards très clairvoyants, car, tandis qu'un rapport officiel de 1864 sur la santé publique en Angleterre s'apitoyait sur le manque de substances adipogènes, facile à constater dans la plus grande partie de la classe ouvrière, un docteur Harvey, qui pourtant n'a pas inventé la circulation du sang, faisait sa fortune dans la même année avec des recettes charlatanesques qui promettaient à la bourgeoisie et à l'aristocratie de les délivrer de leur superflu de graisse. Fin de la note de bas de page. Donc, l'échangiste est donc obligé soit de leur prêter sa propre langue, soit de leur attacher des inscriptions sur du papier pour annoncer leur prix au monde extérieur. L'expression de la valeur des marchandises en or étant tout simplement idéale, il n'est besoin pour cette opération que d'un or idéal ou qui n'existe que dans l'imagination. Il n'y a pas épicier qui ne sache fort bien qu'il est loin d'avoir fait de l'or avec ses marchandises quand il a donné à leur valeur la forme prix ou la forme or en imagination, et qu'il n'a pas besoin d'un grain d'or réel pour estimer en or des millions de valeurs en marchandises. Dans sa fonction de mesure des valeurs, la monnaie n'est employée que comme monnaie idéale. Cette circonstance a donné lieu aux théories les plus folles. Note de bas de page. Voir Karl Marx, Critique de l'économie politique, etc. La partie intitulée « Théorie sur l'unité de mesure de l'argent ». Fin de la note de bas de page. Donc, dans sa fonction de mesure des valeurs, la monnaie n'est employée que comme monnaie idéale. Cette circonstance a donné lieu aux théories les plus folles. Mais quoique la monnaie en tant que mesure de valeur ne fonctionne qu'idéalement et que l'or employé dans ce but ne soit par conséquent que de l'or imaginé, le prix des marchandises n'en dépend pas moins complètement de la matière de la monnaie. La valeur, c'est-à-dire le quantum de travail humain qui est contenu, par exemple, dans une tonne de fer, est exprimé en imagination par le quantum de la marchandise monnaie qui coûte précisément autant de travail. Suivant que la mesure de valeur est empruntée à l'or, à l'argent ou au cuivre, La valeur de la tonne de fer est exprimée en prix complètement différents les uns des autres, ou bien est représentée par des quantités différentes de cuivre, d'argent ou d'or. Si donc deux marchandises différentes, l'or et l'argent par exemple, sont employées en même temps comme mesure de valeur, toutes les marchandises possèdent deux expressions différentes pour leur prix. Elles ont leur prix or et leur prix argent, qui courent tranquillement l'un à côté de l'autre, tant que le rapport de valeur de l'argent à l'or reste immuable, tant qu'il se maintient, par exemple, dans la proportion de 1 à 15. Toute altération de ce rapport de valeur altère par cela même la proportion qui existe entre les prix or et les prix argent des marchandises, et démontre ainsi par le fait que la fonction de mesure des valeurs est incompatible avec sa duplication. Note de bas de page. Partout où l'argent et l'or se maintiennent légalement l'un à côté de l'autre comme monnaie, c'est-à-dire comme mesure de valeur, c'est toujours en vain qu'on a essayé de les traiter comme une seule et même matière. Supposer que la même quantité de travail se matérialise immuablement dans la même proportion d'or et d'argent, c'est supposer en fait que l'argent et l'or sont la même matière, et qu'un quantum donné d'argent, du métal qui a la moindre valeur, est une fraction immuable d'un quantum donné d'or. Depuis le règne d'Édouard III jusqu'au temps de Georges II, l'histoire de l'argent en Angleterre présente une série continue de perturbations provenant de la collision entre le rapport de valeur légal de l'argent et de l'or et les oscillations de leur valeur réelle. Tantôt, c'était l'or qui était estimé trop haut, tantôt, c'était l'argent. Le métal estimé au-dessous de sa valeur était dérobé à la circulation, refondu et exporté. Le rapport de valeur des deux métaux était de nouveau légalement changé. Mais, comme l'ancienne, la nouvelle valeur nominale entrait bientôt en conflit avec le rapport réel de valeur. À notre époque même, une baisse faible et passagère de l'or par rapport à l'argent, provenant d'une demande d'argent dans l'Inde et dans la Chine, a produit en France le même phénomène sur la plus grande échelle. Exportation de l'argent et son remplacement par l'or dans la circulation. Pendant les années 1855, 1856 et 1857, l'importation de l'or en France dépassa son importation de 41 580 000 livres sterling, tandis que l'exportation de l'argent dépassa son importation de 14 740 000. En fait, dans les pays comme la France, où les deux métaux sont des mesures de valeur légale et ont tous deux un cours forcé, de telle sorte que chacun peut payer à volonté, soit avec l'un, soit avec l'autre, le métal en hausse porte un agio et mesure son prix, comme toute autre marchandise, dans le métal surfait, tandis que ce dernier est employé seul comme mesure de valeur. L'expérience fournie par l'histoire à ce sujet se réduit tout simplement à ceci, que là où deux marchandises remplissent légalement la fonction de mesure de valeur, il n'y en a en fait qu'une seule qui se maintienne à ce poste. Ouvrez la parenthèse, Karl Marx, L'Occit, page 52-53, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Si deux marchandises différentes, l'or et l'argent par exemple, sont employées en même temps comme mesure de valeur, toutes les marchandises possèdent deux expressions différentes pour leur prix. Elles ont leur prix or et leur prix argent qui roulent tranquillement l'un à côté de l'autre tant que le rapport de valeur de l'argent à l'or reste immuable, tant qu'il se maintient par exemple dans la proportion de 1 à 15. Toute altération de ce rapport de valeur altère par cela même la proportion qui existe entre les prix or et les prix argent des marchandises, et démontre ainsi par le fait que la fonction de mesure des valeurs est incompatible avec sa duplication. Les marchandises dont le prix est déterminé se présentent toutes sous la forme A marchandise grand A égale X or, B marchandise grand B égale Z or, C marchandise grand C égale Y or, etc., dans laquelle A, B, C sont des quantités déterminées des espèces de marchandises grand A, grand B, grand C, X, Z, Y, des quantités d'or déterminées également. En tant que grandeur de la même dénomination ou en tant que quantité différente d'une même chose, l'or, elles se comparent et se mesurent entre elles, et ainsi se développe la nécessité technique de les rapporter à un quantum d'or fixé et déterminé comme unité de mesure. Cette unité de mesure se développe ensuite elle-même et devient étalon par sa division en parties aliquotes. Avant de devenir monnaie, l'or, l'argent, le cuivre possèdent déjà dans leur mesure de poids des étalons de ce genre, de telle sorte que la livre, par exemple, sert d'unité de mesure, unité qui se subdivise ensuite en onces, etc., et s'additionne en quintaux, et ainsi de suite. Note de bas de page. Ce fait étrange que l'unité de mesure de la monnaie anglaise, l'once d'or, n'est pas subdivisée en parties aliquotes, s'explique de la manière suivante. Ouvrez les guillemets. À l'origine, notre monnaie était adaptée exclusivement à l'argent. Et c'est pour cela qu'une once d'argent peut toujours être divisée dans un nombre de pièces aliquotes. Mais l'or n'ayant été introduit qu'à une période postérieure, dans un système de monnayage exclusivement adapté à l'argent, une once d'or ne saurait pas être monnayée en un nombre de pièces aliquotes. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, McLaren, History of the Currency, etc., page 16, London, 1858, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, avant de devenir monnaie, l'or, l'argent, le cuivre possèdent déjà dans leur mesure de poids des étalons de ce genre, de sorte que la livre, par exemple, sert d'unité de mesure, unité qui se subdivise ensuite en onces, etc., et s'additionne en quintaux, et ainsi de suite. Dans toute circulation métallique, les noms préexistants de l'étalon de poids forment ainsi les noms d'origine de l'étalon monnaie. Comme mesure des valeurs et comme étalon des prix, l'or remplit deux fonctions entièrement différentes. Il est mesure des valeurs en tant qu'équivalent général, étalon des prix en tant que poids de métal fixe. Comme mesure de valeur, il sert à transformer les valeurs des marchandises en prix, en quantité d'or imaginée. Comme étalon des prix, il mesure ces quantités d'or données contre un quantum d'or fixe et subdivisé en parties aliquotes. Dans la mesure des valeurs, les marchandises expriment leur valeur propre. L'étalon des prix ne mesure au contraire que des quantas d'or contre un quantum d'or et non la valeur d'un quantum d'or contre le poids d'un autre. Pour l'étalon des prix, il faut qu'un poids d'or déterminé soit fixé comme unité de mesure. Ici, comme dans toutes les déterminations de mesure entre grandeurs de même nom, la fixité de l'unité de mesure est chose d'absolue nécessité. L'étalon des prix remplit donc sa fonction d'autant mieux que l'unité de mesure et ses subdivisions sont moins sujettes au changement. De l'autre côté, l'or ne peut servir de mesure de valeur que parce qu'il est lui-même un produit du travail, c'est-à-dire une valeur variable. Il est d'abord évident qu'un changement dans la valeur de l'or n'altère en rien sa fonction comme étalon des prix. Quels que soient les changements de la valeur de l'or, différentes quantités d'or restent toujours dans le même rapport les unes avec les autres. Que cette valeur tombe de 100%, 12 onces d'or vaudront après comme avant 12 fois plus qu'une once. Et dans les prix, il ne s'agit que du rapport de diverses quantités d'or entre elles. D'un autre côté, attendu qu'une once d'or ne change pas le moins du monde de poids par suite de la hausse ou de la baisse de sa valeur, le poids de ses parties aliquotes ne change pas davantage. Il en résulte que l'or, comme étalon fixe des prix, rend toujours le même service de quelque façon que sa valeur change. Le changement de valeur de l'or ne met pas non plus obstacle à sa fonction comme mesure de valeur. Ce changement atteint toutes les marchandises à la fois et laisse par conséquent, coeteris paribus, toutes choses égales par ailleurs, leur quantité relative de valeur réciproquement dans le même état. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. L'argent peut continuellement changer de valeur et néanmoins servir de mesure de valeur aussi bien que s'il restait parfaitement stationnaire. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Bailey, Money and its vicissitudes. London, 1837, page 11. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, le changement de valeur de l'or ne met pas non plus obstacle à sa fonction comme mesure de valeur. Ce changement atteint toutes les marchandises à la fois et laisse par conséquent, coeteris paribus, leur quantité relative de valeur réciproquement dans le même état. Dans l'estimation en or des marchandises, on suppose seulement que la production d'un quantum déterminé d'or coûte, à une époque donnée, un quantum donné de travail. Quant aux fluctuations des prix des marchandises, elles sont réglées par les lois de la valeur relative simple développées plus haut. Une hausse générale des prix des marchandises exprime une hausse de leur valeur si la valeur de l'argent reste constante, et une baisse de la valeur de l'argent si les valeurs des marchandises ne varient pas. Inversement, une baisse générale des prix des marchandises exprime une baisse de leur valeur si la valeur de l'argent reste constante et une hausse de la valeur de l'argent si les valeurs des marchandises restent les mêmes. Il ne s'ensuit pas le moins du monde qu'une hausse de la valeur de l'argent entraîne une baisse proportionnelle des prix des marchandises et une baisse de la valeur de l'argent, une hausse proportionnelle des prix des marchandises. Cela n'a lieu que pour des marchandises de valeur immuable. Les marchandises, par exemple, dont la valeur monte et baisse en même temps et dans la même mesure que la valeur de l'argent, conservent les mêmes prix. Si la hausse ou la baisse de leur valeur s'opère plus lentement ou plus rapidement que celle de la valeur de l'argent, le degré de hausse ou de baisse de leur prix dépend de la différence entre la fluctuation de leur propre valeur et celle de l'argent, etc. Revenons à l'examen de la forme prix. On a vu que l'étalon en usage pour les poids des métaux sert aussi avec son nom et ses subdivisions comme étalon des prix. Certaines circonstances historiques amènent pourtant des modifications. Ce sont notamment, premièrement, l'introduction d'argent étranger chez des peuples moins développés, comme lorsque, par exemple, des monnaies d'or et d'argent circulaient dans l'ancienne Rome comme marchandises étrangères. Les noms de cette monnaie étrangère diffèrent des noms de poids indigènes. Deuxièmement, le développement de la richesse qui remplace dans sa fonction de mesure des valeurs le métal le moins précieux par celui qui l'est davantage, le cuivre par l'argent et ce dernier par l'or, bien que cette succession contredise la chronologie poétique. Le mot livre était, par exemple, le nom de monnaie employé pour une véritable livre d'argent. Dès que l'or remplace l'argent comme mesure de valeur, le même nom s'attache peut-être à 1/15 de livre d'or, suivant la valeur proportionnelle de l'or et de l'argent. Livre comme nom de monnaie et livre comme nom ordinaire de poids d'or sont maintenant distinctes. Note de bas de page. Les monnaies qui sont aujourd'hui idéales sont les plus anciennes de toute nation, et toutes étaient à une certaine période réelle, ouvrez la parenthèse, cette dernière assertion n'est pas juste dans une aussi large mesure, fermez la parenthèse, et parce qu'elles étaient réelles, elles servaient de monnaie de compte, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Galliani, Loxit, page 153, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, livre comme nom de monnaie et livre comme nom ordinaire de poids d'or sont maintenant distinctes. Troisièmement, la falsification de l'argent par les rois et roitelets, prolongée pendant des siècles, falsification qui, du poids primitif des monnaies d'argent, n'a en fait conservé que le nom. Note de bas de page. C'est ainsi que la livre anglaise ne désigne à peu près que 1/4 de son poids primitif. La livre écossaise avant l'union de 1701, 1/36 seulement. La livre française, 1/94. Le maravedi espagnol, moins de 1/100. Le reis portugais, une fraction encore bien plus petite. Monsieur David Urquhart remarque dans ses « familiar words » entre guillemets, à propos de ce fait qui le terrifie, que la livre anglaise, livre sterling entre parenthèses, comme unité de mesure monétaire, ne vaut plus que 1/4 once d'or. Ouvrez les guillemets. C'est falsifier une mesure et non pas établir un étalon. Fermez les guillemets. Dans cette fausse dénomination de l'étalon monétaire, il voit comme partout la main falsificatrice de la civilisation. Fin de la note de bas de page. Donc, troisièmement, la falsification de l'argent par les rois et roitelets prolongée pendant des siècles, falsification qui, du poids primitif des monnaies d'argent, n'a en fait conservé que le nom. La séparation entre le nom monétaire et le nom ordinaire des poids de métal est devenue une habitude populaire par suite de ces évolutions historiques. L'étalon de la monnaie étant d'un côté purement conventionnel et de l'autre ayant besoin de validité sociale, c'est la loi qui le règle en dernier lieu. Une partie de poids déterminé du métal précieux, une once d'or par exemple, est divisée officiellement en parties aliquotes qui reçoivent des noms de baptême légaux tels que livres, écus, etc. Une partie aliquote de ce genre, employée alors comme unité de mesure proprement dite, est à son tour subdivisée en d'autres parties, ayant chacune leur nom légal, shilling, penny, etc. Note de bas de page. Dans différents pays, l'étalon légal des prix est naturellement différent. En Angleterre, par exemple, l'once, comme poids de métal, est divisée en pennyweights, grains et carats troy. Mais l'once, comme unité de mesure monétaire, est divisée en 37/8 sovereigns, le sovereign en 20 shillings, le shilling en 12 pence, de sorte que 100 livres d'or à 22 carats, 1200 onces entre parenthèses, égale 4672 sovereigns et 10 shillings. Fin de la note de bas de page. Donc, une partie aliquote de ce genre, employée alors comme unité de mesure proprement dite, est à son tour subdivisée en d'autres parties, ayant chacun leur nom légal, shilling, penny, etc. Après, comme avant, ce sont des poids déterminés de métal qui restent étalons de la monnaie métallique. Il n'y a de changé que la subdivision et la nomenclature. Les prix ou les quantas d'or, en lesquels sont transformées idéalement les marchandises, sont maintenant exprimés par les noms monétaires de l'étalon d'or. Ainsi, au lieu de dire « le quart de froment est égal à une once d'or », on dirait, en Angleterre, « il est égal à 3 livres sterling, 17 shillings, 10 pence et demi ». Les marchandises se disent dans leur nom d'argent ce qu'elles valent, et la monnaie sert comme monnaie de compte toutes les fois qu'il s'agit de fixer une chose comme valeur, et par conséquent, sous forme monnaie. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Comme on demandait à Anacharsis de quel usage était l'argent chez les Grecs, il répondit « Ils s'en servent pour compter. » Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. Athénaeus, Dépne, 1, 4, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, les marchandises se disent dans leur nom d'argent ce qu'elles valent, et la monnaie sert comme monnaie de compte toutes les fois qu'il s'agit de fixer une chose comme valeur, et par conséquent sous forme monnaie. Le nom d'une chose est complètement étranger à sa nature. Je ne sais rien d'un homme quand je sais qu'il s'appelle Jacques. De même, dans les noms d'argent, livres, thalers, francs, ducats, etc., disparaît toute trace du rapport de valeur. L'embarras et la confusion causés par le sens que l'on croit caché sous ces signes cabalistiques sont d'autant plus grands que les noms monétaires expriment en même temps la valeur des marchandises et des parties aliquotes d'un poids d'or. Note de bas de page. L'or, possédant comme étalon des prix les mêmes noms que les prix des marchandises, et de plus étant monnayé suivant les parties aliquotes de l'unité de mesure que ces noms désignent, de l'once par exemple, de sorte qu'une once d'or peut être exprimée tout aussi bien que le prix d'une tonne de fer par 3 livres, 17 shillings, 10 et demi dé, on a donné à ces expressions le nom de prix de monnaie. C'est ce qui a fait naître l'idée merveilleuse que l'or pouvait être estimé en lui-même, sans comparaison avec aucune autre marchandise, et qu'à la différence de toutes les autres marchandises, il recevait de l'État un prix fixe. On a confondu la fixation des noms de monnaie de compte pour des poids d'or déterminés avec la fixation de la valeur de ce poids. La littérature anglaise possède d'innombrables écrits dans lesquels ce quiproquo est délayé à l'infini. Ils ont inauguré la même folie à quelques auteurs de l'autre côté du détroit. Fin de la note de bas de page. Donc, l'embarras et la confusion causés par le sens que l'on croit caché sous ces signes cabalistiques sont d'autant plus grands que les noms monétaires expriment en même temps la valeur des marchandises et des parties aliquotes d'un poids d'or. D'un autre côté, il est nécessaire que la valeur, pour se distinguer des corps variés des marchandises, revête cette forme bizarre, mais purement sociale. Note de bas de page. Comparer, ouvrez les guillemets. Théorie sur l'unité de mesure de l'argent, fermez les guillemets, dans l'ouvrage déjà cité, ouvrez la parenthèse, Critique de l'économie politique, page 53 et suivant, fermez la parenthèse. Les fantaisies à propos de l'élévation ou de l'abaissement du, ouvrez les guillemets, prix de monnaie, fermez les guillemets, qui consiste de la part de l'État à donner les noms légaux déjà fixés pour des poids déterminés d'or ou d'argent à des poids supérieurs ou inférieurs, c'est-à-dire par exemple à frapper 14 onces d'or en 40 shillings au lieu de 20, de telles fantaisies, en tant qu'elles ne sont point de maladroites opérations financières contre les créanciers de l'État ou des particuliers, mais ont pour but d'opérer des, ouvrez les guillemets, cures merveilleuses, fermez les guillemets, économiques, ont été traitées d'une manière si complète par W. Petty dans son ouvrage, ouvrez les guillemets, Quantulum cumque concerning money to the Lord Marquis of Halifax, fermez les guillemets, 1682, que ses successeurs immédiats Sir Dudley North et John Locke, pour ne pas parler des plus récents, n'ont pu que délayer et affaiblir ses explications. Ouvrez les guillemets. Si la richesse d'une nation pouvait être décuplée par de telles proclamations, il serait étrange que nos maîtres ne les eussent pas faites depuis longtemps. Fermez les guillemets. Dit-il entre autres. Locke cite page 36. Fin de la note de bas de page. Donc d'un autre côté, il est nécessaire que la valeur, pour se distinguer des corps variés des marchandises, revête cette forme bizarre, mais purement sociale. Le prix est le nom monétaire du travail réalisé dans la marchandise. L'équivalence de la marchandise et de la somme d'argent exprimée dans son prix est donc une tautologie, note de bas de page, ouvrez les guillemets. Ou bien, il faut consentir à dire qu'une valeur d'un million en argent vaut plus qu'une valeur égale en marchandises. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, le trône, Locke cite, page 922, fermez la parenthèse, ainsi que une valeur vaut plus qu'une valeur égale. Fin de la note de bas de page. Donc, le prix est le nom monétaire du travail réalisé dans la marchandise. L'équivalence de la marchandise et de la somme d'argent exprimée dans son prix est donc une tautologie, comme en général, l'expression relative de valeur d'une marchandise est toujours l'expression de l'équivalence de deux marchandises. Mais si le prix, comme exposant de la grandeur de valeur de la marchandise, est l'exposant de son rapport d'échange avec la monnaie, il ne s'ensuit pas, inversement, que l'exposant de son rapport d'échange avec la monnaie soit nécessairement l'exposant de sa grandeur de valeur. Supposons qu'un quart de froment se produise dans le même temps de travail que 2 onces d'or et que 2 livres sterling soient le nom de 2 onces d'or. 2 livres sterling sont alors l'expression monnaie de la valeur du quart de froment, ou son prix. Si maintenant les circonstances permettent d'estimer le quart de froment à 3 livres sterling, ou force de l'abaisser à 1 livre sterling, dès lors, 1 livre sterling et 3 livres sterling sont des expressions qui diminuent ou exagèrent la valeur du froment. Mais elles restent néanmoins ses prix, car premièrement, elles sont sa forme monnaie, et secondement, elles sont les exposants de son rapport d'échange avec la monnaie. Les conditions de production ou la force productive du travail demeurant constantes, la reproduction du quart de froment exige, après comme avant, la même dépense de travail. Cette circonstance ne dépend ni de la volonté du producteur de froment, ni de celle des possesseurs des autres marchandises. La grandeur de valeur exprime donc un rapport de production, le lien intime qu'il y a entre un article quelconque et la portion du travail social qu'il faut pour lui donner naissance. Dès que la valeur se transforme en prix, ce rapport nécessaire apparaît comme rapport d'échange d'une marchandise usuelle avec la marchandise monnaie qui existe en dehors d'elle. Mais le rapport d'échange peut exprimer ou la valeur même de la marchandise, ou le plus ou le moins que son aliénation, dans des circonstances données, rapporte accidentellement. Il est donc possible qu'il y ait un écart, une différence quantitative entre le prix d'une marchandise et sa grandeur de valeur. Et cette possibilité gît dans la forme prix elle-même. C'est une ambiguïté qui, au lieu de constituer un défaut, est au contraire une des beautés de cette forme, parce qu'elle l'adapte à un système de production où la règle ne fait loi que par le jeu aveugle des irrégularités qui, en moyenne, se compensent, se paralysent et se détruisent mutuellement. La forme prix n'admet pas seulement la possibilité d'une divergence quantitative entre le prix et la grandeur de valeur, c'est-à-dire entre cette dernière et sa propre expression monnaie, mais encore, elle peut cacher une contradiction absolue, de sorte que le prix cesse tout à fait d'exprimer de la valeur, quoique l'argent ne soit que la forme valeur des marchandises. Des choses qui, par elles-mêmes, ne sont point des marchandises, telles que, par exemple, l'honneur, la conscience, etc., peuvent devenir vénales et acquérir ainsi, par le prix qu'on leur donne, la forme marchandise. Une chose peut donc avoir un prix formellement, sans avoir une valeur. Le prix devient ici une expression imaginaire, comme certaines grandeurs en mathématiques. D'un autre côté, la forme prix imaginaire, comme par exemple le prix du sol non cultivé, qui n'a aucune valeur parce qu'aucun travail humain n'est réalisé en lui, peut cependant cacher des rapports de valeur réels, quoique indirects. Le prix, comme la forme valeur relative en général, exprime la valeur d'une marchandise, par exemple d'une tonne de fer, de cette façon qu'une certaine quantité de l'équivalent, une once d'or si l'on veut, est immédiatement échangeable avec le fer. Mais l'inverse n'a pas lieu. Le fer, de son côté, n'est pas immédiatement échangeable avec l'or. Dans le prix, c'est-à-dire dans le nom monétaire des marchandises, leur équivalence avec l'or est anticipée, mais n'est pas encore un fait accompli. Pour avoir pratiquement l'effet d'une valeur d'échange, la marchandise doit se débarrasser de son corps naturel et se convertir d'or simplement imaginé en or réel, bien que cette transsubstantiation puisse lui coûter plus de peine qu'à l'idée entre guillemets hegelienne, son passage de la nécessité à la liberté, au crabe la rupture de son écaille, au père de l'Église Jérôme le dépouillement du vieil Adam. Note de bas de page. Si, dans sa jeunesse, saint Jérôme avait beaucoup à lutter contre la chair matérielle, parce que des images de belles femmes obsédaient sans cesse son imagination, il luttait de même dans sa vieillesse contre la chair spirituelle. « Je me figurais, dit-il par exemple, en présence du souverain juge. « Qui es-tu ? » « Je suis un chrétien. » « Non, tu mens, » répliqua le juge d'une voix de tonnerre. « Tu n'es qu'un cicéronien. » Fin de la note de bas de page. Donc, pour avoir pratiquement l'effet d'une valeur d'échange, la marchandise doit se débarrasser de son corps naturel et se convertir d'or simplement imaginé en or réel, bien que cette transsubstantiation puisse lui coûter plus de peine qu'à l'idée entre guillemets hegelienne, son passage de la nécessité à la liberté, au crabe la rupture de son écaille, au père de l'Église Jérôme, le dépouillement du vieil Adam. À côté de son apparence réelle, celle de fer, par exemple, la marchandise peut posséder dans son prix une apparence idéale, ou une apparence or imaginée. Mais elle ne peut être en même temps fer réel et or réel. Pour lui donner un prix, il suffit de la déclarer égale à de l'or purement idéal. Mais il faut la remplacer par de l'or réel pour qu'elle rende à celui qui la possède le service d'équivalent général. Si le possesseur du fer, s'adressant au possesseur d'un élégant article de Paris, lui faisait valoir le prix du fer sous prétexte qu'il est fort argent, il en recevrait la réponse que Saint-Pierre, dans le paradis, adresse à Dante, qui venait de lui réciter les formules de la foi.
Assai bene trascorsa d'esta moneta già la lega il peso, ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa.
Ouvrez les guillemets. L'alliage et le poids de cette monnaie sont très bien examinés, mais, dis-moi, l'as-tu dans ta bourse? Fermez les guillemets. La forme prix renferme en elle-même l'aliénabilité des marchandises contre la monnaie et la nécessité de cette aliénation. D'autre part, l'or ne fonctionne comme mesure de valeur idéale que parce qu'il se trouve déjà sur le marché à titre de marchandise monnaie. Sous son aspect tout idéal de mesure des valeurs, se tient donc déjà aux aguets l'argent réel, les espèces sonnantes.